Bonjour Christophe Lorieux. Monsieur Picard m'a demandé de venir intervenir pour parler des technologies applicatives au service de la coordination des intervenants à domicile, ce qui est vraiment un vaste sujet. Juste quelques petites définitions très très rapides. Je ne vais pas vous les lire, mais juste pour dire que quand on parle de santé ou de dépendance, on ne parle pas toujours de la même chose. Et pour certains, la santé, c'est un état de bien-être physique. Pour d'autres, ce sont des soins. Quand on parle avec les ARS, c'est l'organisation de toute une infrastructure et également de différentes personnes. Vous ne m'entendez pas? Ah d'accord. Je vais peut-être me lever. Peut-être que... Parce que je ne pense pas que le micro fonctionne, si? Ouais. Il est pavé pour, et voilà. Oui, donc je disais que la notion de santé, c'est quelque chose d'assez complexe et qui recouvre beaucoup de notions différentes. Et quand on est, comme moi, un entrepreneur qui essaye d'adresser ce secteur, ben, il faut faire un petit peu des choix. Et nous, on a fait le choix d'adresser la santé sous l'angle de la dépendance, qui est un sujet d'actualité. J'étais d'ailleurs ce matin au Conseil économique et social où il y a eu quelques petites déclarations qui ont été faites, moi, rien de transcendant, mais où on disait notamment que le pays ne s'endetterait pas pour financer la dépendance et qu'il y ait donc des systèmes d'assurance et surtout les notions d'aidant et de solidarité au sein des cellules familiales sont essentiel pour permettre de mieux gérer cet aspect de la santé et de la santé publique. Donc voilà. Je vais faire un petit panorama maintenant de ce qui se passe dans la filière e-santé, notamment concernant l'offre et la vision qu'on en a ou sa capacité à se déployer. Dans notre pays ou au sein des pays de l'OCDE. Tout d'abord, la majorité des dispositifs sont aujourd'hui assez stigmatisants, pour une raison assez simple, en fait, c'est parce qu'ils s'intéressent aux pathologies. Et donc, quand on s'équipe d'un dispositif de e-santé, eh bien, c'est parce qu'on a un problème de santé assez grave. Et donc la vision qu'on en a n'est pas forcément toujours très positive. Et de ce fait, la volonté de s'équiper bon, n'est pas toujours très, 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 très forte. En parallèle, et c'était un point qui était repris par le professeur Lévy tout à l'heure, c'est que les pathologies sont en général traitées de manière assez verticale, ou même c'est pas forcément les pathologies, c'est les problématiques auxquelles on est confronté. Et de ce fait, eh bien, il n'y a pas d'interopérabilité entre l'ensemble des dispositifs. Et c'est vrai qu'en vieillissant, les pathologies ou les problématiques auxquelles on est confronté deviennent de plus en plus multiples. Et on peut prendre l'exemple de n'importe quelle, bon, d'une personne âgée qui souffrent de problèmes de déplacement, de problèmes de nutrition, qui peut éventuellement chuter, qui également pourrait avoir un diabète ou un début de maladie d'Alzheimer. À chacune de ces pathologies, il y a un dispositif qui répond, mais aucun des dispositifs qui permettent de répondre à l'ensemble de ces pathologies ne sont communicants les uns avec les autres. Et donc, bah, si on voulait s'équiper de l'ensemble des systèmes nécessaires, il en faudrait 10 ou 15 et on additionnerait les coûts. Donc c'est un réel problème qui empêche les offres vraiment de se déployer de manière économiquement viable. L'autre souci bah, qui est un peu le corollaire de ce que je disais avant, dispositif stigmatisant, et souvent, du coup, quand on les installe quand on a une pathologie détectée. Donc, il faut procéder dans l'urgence et la capacité d'appropriation des dispositifs est souvent une problématique additionnelle, d'autant plus que les ergonomies ne sont pas toujours adaptées. Il y a beaucoup de solutions qui sont développées sous des logiciels et les logiciels sont vraiment adaptés. Mais le problème, c'est que bien souvent, on a affaire à des primo-accédants qui doivent acquérir un ordinateur, savoir s'en utiliser et ce sera la porte d'accès à un dispositif. Donc un élément de complexification additionnelle. Les autres points qui découlent de ce que je viens de dire, c'est que du coup, on ne mise pas trop sur l'interactivité ou sur la capacité de l'utilisateur final à utiliser les dispositifs. Et de ce fait, les dispositifs de e-santé ne sont pas suffisamment interactifs, n'impliquent pas suffisamment la personne dépendante qui devient plus spectateur de toute une organisation qui se met à son service et elle n'en est le bénéficiaire final. Mais absolument pas l'acteur. Et donc ça, c'est également un frein au déploiement de services additionnels et d'une volonté d'appropriation de l'ensemble des personnes fragiles, dépendantes ou malades pour s'équiper. Dernier problème qu'on rencontre dans ce domaine-là, c'est le modèle économique qui est un problème assez majeur. C'est un problème parce qu'on est beaucoup encore aujourd'hui dans le domaine de l'expérimentation. Et en général, quand on expérimente, on a souvent recours à des financements via les FUI et FEDER. On en parlait tout à l'heure, également l'appui de collectivités locales. Et malheureusement, cet appui des collectivités locales, il est souvent temporaire. Et à partir du moment où cet appui s'arrête, et ben les dispositifs meurent de leur belle mort. Mais donc ça ne donne rien. Et la majorité des peut-être 600 ou 1000 expérimentations qu'il y a eu aujourd'hui en France et en Europe n'a pas ou très rarement donné lieu à des offres qui sont encore aujourd'hui disponibles sur le marché. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les offres de téléassistance, qui sont des dispositifs donc pas très interactifs. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir accès à un plateau. Il y en a aujourd'hui 300, à peu près 300, 310 000 en France, ce qui est insuffisant par rapport à l'ampleur du besoin. Mais bon, la question qu'on peut se poser, on peut se poser deux questions. C'est d'abord pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? C'est peut-être parce que à cause de notamment de certaines raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et puis un autre constat qu'on peut faire sur ces offres, c'est que elles sont peut-être dans la moitié des cas, utilisées pas pour ce pourquoi elles sont faites. C'est-à-dire qu'on active souvent ces boutons d'alerte et on a recours au plateau téléassistance, pas parce qu'on a un problème, mais uniquement parce qu'on a envie de parler. Ce qui démontre bien que à partir du moment où on réussirait à mettre les utilisateurs au cœur d'un dispositif dans lequel ils seraient acteurs, eh ben on répondrait peut-être à un besoin essentiel des personnes âgées qui ont besoin de liens sociaux et de faire partie de la société et non pas d'en être exclus, notamment via les dispositifs qu'on met à leur disposition. Donc, je l'ai un petit peu survolé par rapport à la slide précédente, mais les verrous sont multiples, verrous qu'il faut lever pour développer cette filière, notamment donc l'interopérabilité, aussi bien concernant les technologies que également les services. Là, je travaillais hier sur un cas où on voyait que on essayait de démontrer qu'un bon coaching nutritif ou une bonne politique de nutrition était un élément essentiel en tout cas complètement corrélé à un bon dispositif de prévention par le sport. Puisque évidemment, quand on fait plus de sport, on a plus besoin de se nourrir ou de se nourrir différemment. Donc, moi, c'est un petit exemple, mais juste pour démontrer que quand on s'intéresse à son bien-être, à sa prévention, aux soins, etc., il est bien de prendre en compte l'ensemble des cas de figure possibles et de bénéficier des apports de chacun des services qui peuvent contribuer au bien-être et à la prévention. Autre verrou, la multidisciplinarité, qui également est un élément de complexification essentiel et important. Aujourd'hui, quand on parle de soins de dépendance, on fait intervenir des médecins et des techniciens, mais pas uniquement ça. Au sein de l'ingénierie, il y a du design, du développement d'interface, des serveurs, et puis au sein de l'ensemble du personnel, des aidants et des auxiliaires de vie du personnel médical, il y a encore quelques dizaines, vingtaines ou trentaines de métiers différents. Et c'est un petit peu un élément qui est pas surprenant, mais bon, le fait est que il faudrait faire simple, mais si on veut faire simple, on a cette approche un peu en silo, et donc on approche les problématiques sous un angle trop restreint. Et donc, pour réussir à faire quelque chose de de cohérent et d'efficace, il faut rentrer dans la complexité. Donc c'est un réel verrou et c'est un frein au développement de cette filière e-santé. Je parlais tout à l'heure de l'acceptabilité des dispositifs. Un des leviers pour l'acceptabilité, c'est l'interactivité. Après, bon, il y a des... Là, Nicolas Sarkozy ce matin disait que la dépendance était quelque chose de complètement séparé du système de soins ou de la sécurité sociale et que ce sont deux canaux de financement différents. Cependant, les passerelles sont multiples et il faudra bien gérer les deux à la fois. Donc voilà, ce sera un verrou. Dans le système de financement de tout ça, on va avoir encore des verrous additionnels. Cette slide est issue d'un travail qu'avait initié Nora Béra l'année dernière concernant le vivre chez soi. Et c'était une des conclusions d'un groupe de travail, c'est que au fur et à mesure que l'on vieillit, les besoins évoluent. Mais ne se substituent pas les uns aux autres. C'est-à-dire que quand on est un aîné actif, on se soucie de son bien vieillir, du lien social évidemment, un peu de sécurité, et puis au fur et à mesure, des besoins nouveaux arrivent qui en aucune manière remettent en cause les besoins qui sont nés auparavant. Donc tout ça pour dire que c'est une piste qu'il faut creuser dans pour ce qui concerne les notions de modèle économique, c'est-à-dire que si on réussit à arriver le plus en amont qu'on le fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on aura une durée de vie des dispositifs plus longue qui permettra une rentabilité plus supérieure. Donc si on gère de l'interopérabilité, donc qui permet de faire des économies d'échelle, et si on permet une durée de vie plus longue, voilà deux éléments qui l'un et l'autre permettent de viabiliser peut-être le modèle économique de la e-santé. Donc il faut donc faire beaucoup de choses, selon moi. Évidemment, remettre l'utilisateur au centre des dispositifs, permettre de l'interopérabilité, faciliter aussi beaucoup la circulation de l'information entre tous les acteurs. On parlait de cette multidisciplinarité qui ne simplifie pas tout. Baisser les coûts d'exploitation des dispositifs, c'est une évidence. Un point aussi assez important, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne veulent pas souvent payer les dispositifs qui sont mis à leur charge parce qu'elles ont été habituées à des systèmes où tout était pris en charge. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on ne s'intéresse pas à la santé dans le terme de système médical, mais on s'intéresse à des notions de prévention et de bien-être. Et c'est peut-être justement en s'intéressant à faire bouger le curseur vers ces notions de bien-être et de confort, de loisirs, de lien social, qu'on va réussir à créer de la valeur ajoutée perçue pour l'utilisateur final qui sera monétisable. En tout cas, c'est dans ce sens-là que beaucoup travaillent aujourd'hui. C'est une piste qu'il ne faut pas, à mon avis, minorer. Deuxième piste qui peut permettre de créer un modèle économique, c'est que les nouvelles technologies permettent évidemment une meilleure affectation des ressources humaines au sein de l'ensemble des dispositifs dans ce cadre-là, de baisser le coût qui est... La base de coûts la plus importante des dispositifs, c'est les coûts de ressources humaines. Je ne veux absolument pas dire qu'il faut supprimer toute intervention humaine, mais qu'il y a énormément d'interventions qui sont routinières et sans aucune valeur ajoutée, mais juste nécessaires pour lever certains doutes, et que ces coûts-là peuvent être peut-être transférés plus efficacement vers des soins ou des loisirs ou du coaching qui serait certainement plus efficace pour allonger la durée de vie en autonomie et pour le bien-être des personnes. Tout ça pour dire que des innovations d'usage, il y en a certainement, elles sont multiples, et qu'il faudrait peut-être aujourd'hui mettre en place l'infrastructure qui leur permettra d'émerger. Je parlais des services, hein, ils sont multiples et pas uniquement liés à la notion de médecine. Ils peuvent avoir trait au confort, aux soins, à la vie quotidienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces slides. Je pense que vous les avez dans les jeux qui vous ont été donnés. Voilà, là, c'est quelques solutions qu'on voit émerger de plus en plus souvent, l'une n'excluant pas l'autre d'ailleurs, et on peut tout à fait imaginer des systèmes qui regroupent l'ensemble de ces solutions. Il y a d'abord le fait de faire évoluer la notion de téléassistance vers une notion de téléprésence. La téléprésence incluant pas uniquement des plateaux d'assistance, mais également l'ensemble des aidants familiaux ou des auxiliaires de vie, sachant que ces dispositifs de téléprésence peuvent, on en entendait parler tout à l'heure, aujourd'hui être vraiment beaucoup plus paramétrables qu'ils ne sont. On peut paramétrer des alertes, des flux d'informations, pas uniquement en direction de différents profils. Tout ça pour permettre une meilleure circulation de l'information qui permettra elle-même une meilleure intervention, une optimisation de l'intervention des ressources. Ces systèmes de téléprésence donc reposent bien évidemment sur l'interaction, l'interactivité, le coaching et puis des éléments de formation aussi. Il y a également donc ces plateformes de services, il y en a de plus en plus. Et tout à l'heure, on voyait que des systèmes qui contribuent à fabriquer des fusées peuvent s'adapter dans le domaine des services à la personne ou du socio-médical. Moi, je vois de plus en plus des gens qui viennent de métiers qui n'ont rien à voir avec celui de l'e-santé qui rentrent sur ce secteur parce que les mécanismes sont exactement les mêmes hein, et les technologies sont les mêmes. Donc, c'est un mouvement qui est assez intéressant. Puis, dernier point, les labels. Aujourd'hui, c'est vrai que les dispositifs doivent inspirer confiance et on doit se les approprier. Et un des mécanismes qui va le permettre, c'est peut-être une labellisation. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est vrai que n'importe qui, ou même si moi-même, demain, je devais être un prestataire de service à destination des personnes âgées, il n'y a rien qui garantit que je suis quelqu'un d'honnête, efficace, etc., etc. Donc, la labellisation a de beaux jours devant elle dans ce domaine-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas suffisamment de choses faites ou autrement uniquement sur des notions de protocole informatique ou sur un des aspects des services, mais pas dans la globalité ou dans la transversalité. Ici, je vous montre quelques exemples d'architecture que l'on voit, que l'on peut voir. Il y a notamment la box. La box, aujourd'hui, bon, on la connaît tous, elle permet de gérer des flux d'informations de l'extérieur vers les trois ou quatre terminaux principaux que sont la télévision, le téléphone, l'ordinateur et puis éventuellement les smartphones. Mais elle permet également, où elle peut permettre, on le voit d'ailleurs dans ce que sont maintenant les box évolution et révolution de Free d'une part et des SFR d'autre part, elles peuvent permettre de communiquer avec des capteurs. Et de plus en plus, en fait, on est en mesure de déporter l'intelligence qu'il y a dans les ordinateurs vers la box. Tout ça, pourquoi? Parce que ça permet de beaucoup plus d'interopérabilité. Ça permet de faciliter le lien également avec l'extérieur dans des conditions de sécurité, d'efficacité que je considère comme étant meilleures. La box permet bien évidemment de relier un ensemble de services. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que ce que j'expliquais. Moi, je travaille actuellement notamment sur un projet qui consiste à essayer de développer des outils des kits de développement en fait complètement paramétrables pour essayer de reconnaître l'ensemble des outils communicants qu'on peut trouver à son domicile et de leur donner des usages, pas uniquement dans le cadre par exemple, un détecteur de température ne va pas servir uniquement à déceler si une pièce est mal chauffée. Il peut déceler un risque d'incendie. Il peut déterminer qu'une personne a oublié d'allumer son chauffage et que donc elle n'est plus du tout concentrée sur des éléments essentiels de son confort et plein d'autres choses encore. Donc l'idée, et c'est l'avantage de ces box qui commencent à voir le jour, c'est qu'elles peuvent permettre avec de l'intelligence logicielle au-dessus de vraiment rendre l'utilisateur acteur de son bien-être et donc de son autonomie. Donc, quels sont les axes sur lesquels on se concentre aujourd'hui? Notamment, il y a tout ce qui, pour les usagers, le maintien du lien social et tout ce qui concerne le développement de la solidarité sont des moteurs qui peuvent permettre d'inciter les utilisateurs à acquérir ou à s'équiper, à acquérir des dispositifs ou à s'équiper, les remettre donc au centre d'un dispositif, j'en ai suffisamment parlé, le côté non stigmatisant. Et évolutif, parce que bon, bien évidemment, on est non stigmatisant parce qu'on arrive peut-être plus en amont de la détection d'une maladie ou d'une pathologie, mais ça ne veut pas dire que cette pathologie ne va pas produire ses effets. Et donc, avoir un système évolutif qui prenne en compte le fait qu'un jour, on peut perdre une partie de ses sens, moins voir, être moins capable de se déplacer, perdre une partie de sa mémoire, tout ça, c'est aujourd'hui possible de le prendre en compte dans une interface et de la rendre évolutive. Je parlais du label aussi, donc voilà une des perceptions de valeur pour les usagers. Concernant l'ensemble des prestataires de services qui hésitent ou qui ont de grosses difficultés financières pour vivre dans cette filière, c'est déjà accéder aux utilisateurs. Et c'est vrai qu'en mettant en commun des dispositifs et en déployant des plateformes de services, on permet de simplifier cette opération-là. Tout en réduisant les droits d'entrée. Voilà. Les plateformes de services, il n'y en aura jamais qu'une. Il y en aura peut-être 10, 15, 20 demain. Il ne faut pas se dire que ce sera un problème. Ce sera à chaque fois un relais de croissance potentiel pour les prestataires et il faudra faire avec. Et puis, voilà, proposition de valeur pour les prestataires, je pense que c'est la plus importante. C'est notamment un des axes sur lesquels. Les téléassisteurs travaillent aujourd'hui, voilà, arriver plus en amont sur les maladies pour prolonger la durée des offres de manière à mieux les rentabiliser et bien évidemment à réduire le coût final pour l'utilisateur. Et puis bon, pour les pouvoirs publics, les propositions de valeur elles sont multiples. Eh bien, je parlais de ces difficultés de les au niveau macroéconomique, la provision de valeur des géants technologiques, elle est évidente. Après, il est difficile de la récupérer pour les prestataires. Mais bon, on se rend bien compte qu'en optimisant le fonctionnement des réseaux de soins au domicile, on va réduire le frais de fonctionnement des CHU, etc., etc. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, juste vous dire qu'aujourd'hui, certains assureurs raisonnent sur cet axe-là. Il y a 3 ou en fait 5, au total 5 millions de personnes qui sont assurées contre la dépendance. Et la durée, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le montant moyen c'est d'à peu près 360 euros par an, mais la durée de cotisation augmente chaque année d'environ 4 mois, c'est-à-dire aussi vite que l'allongement de la durée de vie. Et si les dispositifs de e-santé peuvent, grâce à une prévention plus efficace, à du coaching, à tout ce genre de choses, permettre de faire durer cette autonomie et donc la durée de cotisation plus longtemps, là encore, il y a un axe à travailler et qui est susceptible d'intéresser ces acteurs-là. Après, une autre statistique qu'il faut prendre en compte, moi qui est intéressante, entre guillemets, c'est que les auxiliaires de vie sont proportionnellement de moins en moins nombreux pour s'occuper des personnes dépendantes. Et que même si cette filière e-santé est créatrice d'énormément d'emplois dans les 10-20 années qui viennent, il ne faudra pas que ça se fasse en proportion de l'augmentation de la population, sinon tout notre PIB va y passer. Donc, les gérants technologie ont un rôle à jouer. Et voilà, c'est fini.